состоит на костях и крови.
Cette ville se trouve sur des os et du sang.
Этот город как бы предназначен больше не для жизни.
C'est pas une ville prédestinée à la vie.
А для истории, для памяти.
C'est pas une ville qui est faite pour y vivre, c'est une ville pour l'histoire et pour la mémoire.
Это большей степени город мертвых героев.
C'est plutôt la ville des héros morts.
В ноябре, 19 ноября.
19 novembre.
Декабре.
Décembre. Janvier. Février. Ça fait 3 mois et demi.
Trois
mois et demi d'horreur. Trois mois et demi de combats horribles.
On a consacré notre vie. J'étais toute jeune. Et puis j'ai été gelée, j'ai été mutilée à cause de la guerre l'hiver 41 et l'hiver 42.
Donc pour vous, la bataille de Stalingrad, c'est pas une victoire.
Ну как? Как мы все говорим, это праздник со слезами на глазах.
Comme on dit tous, c'est une fête avec des larmes plein les yeux.
Les chars soviétiques sont en vue, le combat s'engage. L'artillerie pilonne les défenses de la ville. Au loin, dans la fumée, apparaît Stalingrad.
La lutte se poursuit dans Stalingrad en ruine.
Le lendemain, vision du champ de bataille.
Ces images se passent de commentaires.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, mémoire de Stalingrad.
Flight number 2, arriving from New York.
Что? Мальчишки, вообще, вот как нужно ребенку привыкнуть к смерти?
La question c'est comment un enfant peut s'habituer à la mort?
Что они пугали девчонок так? Они ставили замерзшие трупы немцев.
Vous savez ce que faisaient les jeunes garçons? Ils prenaient des cadavres d'Allemands.
Вдоль дороги к этим танцам.
Et давали. C'était le long de la route là où dansaient les filles. Et ils mettaient une arme automatique dans la main des cadavres. Ils les mettaient debout et ils mettaient une arme automatique dans la main des cadavres allemands.
Et девчонки, разговаривая бегом, бежали все равно на танцы, потому что хотелось жить, хотелось радости.
Et les petites filles voyaient ça, étaient effrayées, mais elles allaient quand même danser parce qu'elles avaient envie de vivre.
Да, а девчонки шли и боялись.
Ils levaient les corps gelés des Allemands, ils leur mettaient un revolver dans la main. Pour faire peur aux filles qui allaient danser, ça les effrayait, mais elles avaient tellement envie de danser qu'elles allaient danser.
Вот такие игрушки здесь были.
Voilà les jeux qui ont eu lieu au printemps 43.
Aujourd'hui, Stalingrad n'existe plus, à part à Paris, une avenue, une station de métro. Cette ville s'appelle Volgograd, elle a été débaptisée en 1961. Déstalinisation oblige, n'empêche que pour tout le monde, c'est évidemment tout le monde en Russie, en ex-Union soviétique, c'est resté évidemment Stalingrad. C'est là qu'un million de personnes moururent, sauf d'autres chiffres collatéraux, de victimes collatérales. Et ça, ces chiffres-là sont très vagues, 180 jours de combat, et le sort du monde, la destinée de l'humanité tout entière s'est retournée dans cet endroit, le long de ce fleuve, de cette Volga, dans ce chaudron, dans ce qu'on appelle le Kessel. Oui, 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 quelque chose du monde s'est retourné à cet endroit-là. Cette bataille, et puis cette victoire soviétique a été le triomphe de Staline, et le triomphe de Staline a entraîné le partage du monde entre les États-Unis, l'Angleterre et Yalta. Et puis ensuite, la guerre froide, et puis l'effondrement de cette Union soviétique et de ce camp en 89-91, et puis l'hégémonie américaine, et puis aujourd'hui, pour les États-Unis d'Amérique, la recherche d'un adversaire, la recherche d'un ennemi, comme sens politique à ce qu'il faut bien effectivement appeler un empire. On voit qu'il y a un enchaînement, je le fais très rapidement, n'empêche que il y a à la base de ça, à la source de ça, la bataille de Stalingrad et cet épisode très important pour l'histoire du monde. Or, dans nos mémoires françaises, eh bien, comme c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire, peu à peu, guerre froide oblige, eh bien, cette mémoire, cette partie de l'histoire de l'humanité s'est trouvée reléguée au deuxième, troisième, quatrième plan. Voilà pourquoi, à l'occasion du 60e anniversaire de cette bataille, nous sommes allés là-bas pour essayer de comprendre, pour essayer de sentir et rapporter des paroles. Volgograd est une ville musée aujourd'hui, entièrement dévolue à cette histoire, et il y a un remarquable musée, et en haut de ce musée, curieusement, une architecture circulaire, en haut de ce musée, il y a un fantastique diorama qui raconte une journée dans la bataille de Stalingrad. C'est-à-dire une immense peinture qui représente le 26 janvier. Une journée dans la bataille de Stalingrad. C'est un grand cylindre, un grand cercle, un panorama. Je crois qu'on appelle ça aussi un diorama. Et les spectateurs peuvent voir donc le déroulement de cette journée depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit. Et on va demander à la conservatrice du musée de nous donner des précisions.
Stalingrad était еще большой оперативно-тактическое искусство, ведь впервые и немецкая, и наша армия оказались здесь в условиях уличного боя.
Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est assez unique en son genre, au sens où il y a une guérilla des villes, où les Allemands et les Soviétiques se sont battus dans les rues.
И наша армия воевала
et notre armée a combattu
при наличии мирного населения.
En présence de population civile.
Поэтому город стоит на костях и крови.
Cette ville se trouve sur des os et du sang.
Жить в таком городе сложно.
Et c'est difficile de vivre dans une telle ville.
Это город как бы предназначен больше не для жизни в нем.
C'est pas une ville prédestinée à la vie.
А для истории, для памяти.
C'est pas une ville qui est faite pour y vivre, c'est une ville pour l'histoire et pour la mémoire.
Это в большей степени город мертвых героев.
C'est plutôt la ville des héros morts.
такой вот просто спокойной, лиричной, красивой жизни, ну, средней полосы России.
C'est plus ça qu'une ville joyeuse pour se réjouir pour la jeunesse.
Хотя, voilà. Même si... хотя на сегодняшний день
aujourd'hui,
в нашем городе рождается, наконец, поколение.
Ville, on a une génération maintenant qui
naît. Это четвертое, пятое поколение.
La quatrième, la cinquième génération.
Которая будет воспринимать эту войну без боли.
Qui va regarder cette guerre sans souffrance.
Потому что, ну вот я человек среднего Parce... поколения.
Moi, je suis de la génération intermédiaire.
Да, мне 40 лет.
J'ai 40 ans.
Не знала деда,
je n'ai pas connu mon grand-père, maternel,
который погиб
qui est mort
во время Великой Отечественной.
Pendant la Grande Guerre patriotique.
Бабушка с мамой были в оккупации.
Ma grand-mère ainsi que ma mère ont vécu en occupation.
Отцовской линии дед
et
пришел
de mon
с войны.
Père, mon grand-père est revenu de la guerre.
Два года после победы.
Et est mort deux ans après la victoire.
То есть я его тоже не знала.
Donc je l'ai pas connu non plus.
Но я помню, как по традиции того времени их фотографии на стенках.
On avait toujours leurs photos sur le mur.
Я слышала рассказы бабушки.
J'ai écouté les récits de ma grand-mère.
Я видела боль матери.
J'ai vu la souffrance de ma mère.
Я видела город еще в руинах. Я его помню.
J'ai vu la ville en ruine, ça je m'en souviens.
Детство проходило вот et, именно в развалинах
et
и руинах.
Notre enfance,
следующая улица, которая была ниже мельницы. У нас у каждого мальчика была граната.
Chaque enfant avait une grenade.
Револьверы.
Un revolver.
Пулеметы.
Une arme automatique.
Двое мальчишек у нас подорвалось в классе.
On a deux
enfants
qui ont explosé en
Это
classe.
Просто было, ну, как бы нормальное явление.
C'était un phénomène normal.
60-х, 70-х годов того времени. Перекочевывают со стенки наших домов наши альбомы.
Et après, petit à petit, avec le temps, on a rangé les photos qui étaient sur le mur, on les a mis dans les albums de famille.
C'est вот когда у меня родилась дочь, она
Et quand ma fille est née,
поняла, что это вот то поколение.
J'ai compris que c'était cette génération-là.
Которая будет воспринимать эту войну как историю.
Qui aurait un regard sur la guerre, comme un regard sur l'histoire, un regard objectif.
Историю, которой можно гордиться.
Sur une histoire dont on peut être fier.
Но там не будет той боли,
mais sans la souffrance,
которая еще есть у меня.
Que nous, on a, que moi,
есть
j'ai
у моей мамы.
Que ma mère a,
есть у ветеранов.
Que les vétérans ont,
как просто потому, что они видели смерть.
Parce qu'ils ont vu la mort.
Боль.
La souffrance.
Своих родных, товарищей.
De leurs proches, leurs camarades.
Они видели разрушенные города, свою родную, разрушенную родину.
Leur patrie détruite.
On a trop vu, évidemment, l'histoire soviétique à travers l'histoire du Kremlin, à travers l'histoire du pouvoir soviétique, en oubliant trop souvent les gens, tout simplement, le peuple, les peuples, qui constituait cette Union soviétique et leur mémoire et leur histoire, l'histoire de ces 27 millions de... On discute à nouveau les chiffres, 24 à 27 millions de soviétiques qui sont morts au cours de cette grande guerre patriotique. C'est des chiffres, évidemment, encore une fois, faut-il le dire, hallucinants, qui témoignent de deux choses. De ce qui était le but des nazis, c'est-à-dire l'extermination d'une race inférieure vouée à la disparition et à l'esclavage. Et puis, pour le régime stalinien, c'était une guerre de survie où la vie humaine était sans importance. Et puis, ça a été ce fabuleux élan patriotique, cette lutte d'un peuple, de plusieurs peuples, si on veut bien considérer que c'était l'Union soviétique, contre leur propre destruction, tout simplement. Alors, voilà ce que nous dit Svetlana, Madame Svetlana, qui est la directrice adjointe du musée de Volgograd, elle a donc une quarantaine d'années. Mais voilà Katyusha. Oui, Katyusha, vous connaissez cette chanson, Katyusha. Eh bien, ça a été la chanson de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été tout spécialement la chanson de cette bataille. Et c'est le nom ou le surnom que s'est donné cette femme que nous rencontrons, cette ancienne, cette vétérane, qui est venue là de loin avec beaucoup d'autres, bardée de médailles. Les médailles, ça évite de verser des pensions, et qui se retrouve là et évoque évidemment leurs souvenirs.
C'est vraiment une ambiance extraordinaire. Hein. Il y a un vieux parfum soviétique, une immense salle de restaurant avec des décors de marbre et de lustre inimitables. Et les rideaux, les fameux rideaux de l'époque Brejnev. Et puis, des vétérans, des anciens combattants qui sont attablés. C'est à celui qui aura le plus de médailles.
А вы приехали на 60-летие освобождения Сталинграда от немецко-фашистских.
Et vous êtes venu pour le 60e anniversaire de la libération de Stalingrad des fascistes allemands.
Там чай это принесут, я сейчас могу уже говорить. Задавайте
вопросы. En attendant le thé, on peut discuter un petit peu.
Катюша.
Voilà, Катюша.
Вот моя биография.
C'est vous, Катюша.
Ça, c'est ma biographie.
Я Катюша. А вот, пожалуйста, журналист снимал меня.
Et voilà, et журналист m'a photographié en Crimée.
Мне уже очень много лет. 78.
J'ai 78 ans.
Et то мне было 15, когда война началась.
Et j'avais 15 ans quand la guerre a commencé.
Вот, и вдруг я по этому радио услышала.
J'ai entendu à la radio, il y avait des радios sur les piliers. Et j'ai entendu la grande guerre patriotique a commencé.
Нашу землю топчут фашисты грязными своими сапожищами.
Les fascistes avec leurs bottes sales sont en train de piétiner nos terres.
А комсомольцы уходят на фронт.
Et les комсомольцы partent comme volontaires au front.
А я была комсомолка.
Et moi j'étais комсомоль.
Да. Пошла искать, где
et
меня возьмут на фронт.
Chercher à m'engager pour savoir où partir.
Там сидел военком.
Et il y avait un commandant militaire dans son uniforme.
К нему обращаюсь, дядь, дядя.
Et je l'appelais oncle, tonton, envoie-moi au front.
Он подошел ко мне ближе и говорит, сколько тебе лет?
Quel âge as-tu?
Я говорю, мне 15.
J'ai dit, j'ai 15 ans.
И я комсомолка.
Et je suis комсомоль.
А он говорит, детей на фронт не берем.
Il a dit, on ne prend pas les enfants au front. 15 ans, c'est trop petit. Et moi, je suis sortie, j'avais les larmes qui commençaient à couler. Je me disais, pourquoi ils ne me prennent pas au front? Et j'ai écrit une lettre à Staline. J'ai écrit à Staline une lettre en disant, mais pourquoi ils ne me prennent pas?
Главнокомандование из Москвы.
Le commandant,
конечно, Сталин
chef
не видел моего письма.
C'est sûr que Staline n'a pas vu ma lettre.
Шла такая война, а я по наивности
такой,
думала, что Сталин увидит. И разрешили меня в этот батальон
взять.
Добровольный.
C'était un bataillon volontaire.
Ему не надо было со мной спорить, нужно было под Сталинград посылать. Здесь было как пушечное мясо. Здесь только убивали.
Il fallait pas commencer à discuter parce qu'il avait besoin de chair à canon à envoyer à Stalingrad.
Et он меня послал.
La bataille à Stalingrad avait commencé.
Сталинград.
Le dur vent de la steppe s'est élevé et ralenti la marche des opérations. Les troupes allemandes se défendent avec acharnement, réussissant à repousser les attaques redoublées des assaillants et à rester maîtresses du village. L'aviation seconde efficacement les mouvements de l'infanterie. Pilonnant sans relâche les nœuds de communication et les voies ferrées. Des blindés russes sont attaqués par des Stuka.
Est-ce que vous étiez là pendant la bataille de Stalingrad?
Да, была. Вот на эти, на эти, но на корабле.
Они sur un bateau.
Не внутри.
Pas à l'intérieur.
Видела.
Mais j'ai vu.
Как горел Сталинград.
J'ai vu comment Stalingrad brûlait.
Горела Волга, потому что
la Volga brûlait. Parce qu'il y avait du pétrole qui avait été jeté, ça prenait feu.
Страшная была картина.
C'était un tableau terrible.
Весь Сталинград в огне был.
Tout Stalingrad était en feu.
C'est impossible de se rappeler
ça. Quand j'en parle, j'ai les cheveux qui se dressent sur ma tête.
Вообще я хочу сказать,
ce que je veux dire.
Пусть будут прокляты все войны.
Que мы людей, guerre soit maudite.
Мы детей рожаем, мы
nous,
женщины.
On donne vie aux enfants, nous
не
sommes
для
des
того,
femmes.
Чтобы они гибли.
On donne pas vie à des
того,
enfants pour qu'ils meurent. On donne vie à des enfants
чтобы
pour qu'ils vivent.
Стали хорошими людьми.
Pour que ils deviennent des gens bien, des hommes bien.
Защищать, тогда только, а так нечего.
Seulement s'il faut vraiment défendre la patrie dans ce cas-là, d'accord, mais sinon non.
У нас есть такая пословица.
Nous, il y a un proverbe.
Александр Невский сказал еще.
Il dit que Alexandre Nevsky a dit.
Кто с мечом к нам придет?
Qui vient avec le fer mourra par le fer.
Освобождали Европу.
И он олигархи
медали.
Voilà.
За что? Voilà. Штурм Будапешта.
Voilà.
Штурм
медали,
Вены.
La prise de Budapest, la prise de Vienne.
Штурм Будапешта, Вены и освобождение Белграда, столицы. Дня золотая степень братства по оружию венгерский.
Et j'ai aussi la médaille d'or de la libération des frères hongrois.
А это там болгарская.
C'est la Bulgarie.
Самое главное. Потом мне вот эту медаль вручили.
И après, on m'a remis cette médaille.
Это уже потом вручили, она такая.
On me l'a remise.
В день рождения Флоренс Найтингейл. Вот так прошла все бои. Европу освободили.
J'ai fait tous les combats, j'ai libéré Europe.
Ну вот так. Вот. Вы смотрите.
Regardez.
Вот эта медаль.
Il faut que je vous parle de cette médaille.
Она называется «Милосердие мира».
C'est la médaille de la compassion, de la charité, de la paix. Vous voyez, je vous saoule beaucoup, je vous raconte beaucoup de choses parce que je vous aime beaucoup. Mais personne ne vous dira qu'on fera autant de choses que moi.
Parce
que moi, de l'âge de 15 ans, je suis partie du premier jour jusqu'à la fin de la guerre.
Я против фашизма
воевала. Je suis contre le fascisme et je me suis battue contre le fascisme.
Нам не нужны были чайки, все.
Buvez, buvez.
А может, вы еще чего-нибудь поели бы?
Vous voulez manger? Quelque chose, une banane.
Buvez du thé.
Sinon, ça va encore refroidir.
Vous
pouvez peut-être manger un peu quand même. Mangez un petit peu.
Вот и все. Ну и ладно.
Катюша, est-ce que vous avez eu le temps d'avoir des enfants?
Да. У меня сын.
Oui, j'ai un fils.
Прекрасный, высокий.
Magnifique, grand.
У меня муж был очень хороший.
Mon mari était très bien. C'était un constructeur intelligent.
Вот и все, да. Ну, вот так вот. Все у меня есть. У меня две внучки есть.
J'ai deux petites filles.
Они уже в институте учатся.
Elles sont étudiantes actuellement.
И все есть, все хорошо.
Tout est bien. Très bien, buvez votre thé.
Так вот, сказала, если бы я не стала врачом после войны.
Et j'ai été pas devenue médecin après la guerre.
Я стала бы жонглером в этом самом в цирке.
Je serais devenue jongleuse dans un cirque.
Я очень хорошо, метко бросала.
Parce que je savais jeter les grenades. Ça serait très habile.
Пейте чай.
Mais buvez du thé.
А вам я желаю, дорогие мои,
mes chéris,
что у вас было только голубое небо над головой
и peut-être un ciel bleu.
Мирная жизнь.
Et une vie en paix.
И все. Спасибо вам большое.
Merci beaucoup.
Donc pour vous, la bataille de Stalingrad, c'est pas une victoire.
Ну как? Как мы все говорим, это праздник со слезами на глазах.
Comme on dit tous, c'est une fête avec des larmes plein les yeux.
Ведь наши потери в войне во всей.
Parce que nos pertes dans la guerre.
Боевые 5 миллионов.
Au début, Staline avait déclaré qu'il y avait 6 millions de pertes militaires.
Хрущев объявил 20 миллионов.
Хрущев a dit lui 20 millions.
И Горбачев посчитал и объявил 27 миллионов.
И Горбачев lui a recompté et a déclaré qu'il y avait 27
это
millions de pertes.
Это кроме мирного населения.
Militaires.
Édouard Poliakov anime l'association des victimes de la répression politique illégale. Il faut être très très précis. Et Édouard nous raconte une histoire terrible. Il est né en 1936 et son père a été arrêté en 1936, c'est-à-dire voilà l'année de sa naissance. Il a été arrêté en vertu de l'article 58, qui était le fameux article qui permettait d'arrêter n'importe qui et d'envoyer n'importe qui au goulag. Et il a été arrêté pour le motif de trotskisme. On a les papiers sous le nez, là. Il a été envoyé à Magadan, c'est-à-dire au goulag, le pire des goulags. Mais il n'est pas arrivé jusqu'à Magadan parce qu'au niveau de la prison de Saratov, il a été fusillé 6 mois après son arrestation. Il a été réhabilité en 1963, c'est Édouard Poliakov qui s'est chargé lui-même de la réhabilitation de son père au moment où ça a été possible, c'est-à-dire au moment du dégel, au moment de Khrouchtchev, au moment de la déstalinisation. Et voilà, évidemment son père n'était pas trotskiste, c'était un jeune homme de 28 ans qui travaillait comme économiste dans un atelier. Il était secrétaire du Komsomol. Et en fait, c'était une histoire, toujours selon Édouard Poliakov, le fils, c'était une histoire sentimentale, de rivalité avec un autre garçon autour d'une fille, et l'autre garçon l'a dénoncé au NKVD, et c'est ainsi qu'il a été arrêté et déporté. Et voilà, et là on en est en 1942, août 42. C'est-à-dire au début de la guerre, ici où nous sommes à Stalingrad, et donc en 1942, Édouard, vous avez 6 ans.
Oui.
La ville était déjà en train de brûler complètement. Il y avait un point d'évacuation central. Et là, on nous a répartis, on nous a envoyés à Tashkent. Vous savez, ça c'est jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait du mal. Il y a 20 ans, je suis venue ici.
Il y a un musée spécial.
Il y a un musée spécial.
Памяти.
Il y a une salle de mémoire et sur le mur, tous les prénoms et noms de ceux qui sont
там
tombés sont
такая, я начал читать имена.
Et j'ai commencé à lire les noms.
Подошел солдат, он и сейчас
il y a un soldat qui est venu vers
спросил,
moi.
Вы ищете?
Colonel, qu'est-ce que vous cherchez?
Я сказал, я ищу такое имя.
J'ai dit, je cherche
говорит,
tel prénom.
Ищите.
Il a dit, ne cherchez
Тут
pas.
10 000 человек
ici,
всего.
Ici, il y a 10 000 noms alors qu'il y a 1 million de personnes qui sont mortes.
Voilà des fragments de mémoire, celle d'Edouard Poliakov qui était enfant au moment de la bataille de Stalingrad, mais qui n'a pas oublié, évidemment, comment pourrait-il oublier, comme des centaines de milliers, ce qui est advenu à son père dans les années 30, les années de purge stalinienne qui ont... était l'horreur que nous savons. C'est aussi la voix qu'on vient d'entendre, celle de Mikhail Rabinovitch, et qui est venu des États-Unis pour ce 60e anniversaire. Mikhail Rabinovitch est d'origine juive et il a fui l'URSS dans les années 50, au moment où il y a des manifestations d'antisémitisme officielles ont astreint un nombre de juifs à l'exode, et il s'est enfui vers les États-Unis, et c'est une longue et riche et extraordinaire histoire que la sienne. Et son il est là avec ses médailles, un homme grande taille comme ça, très actif, et il est avec un ami à lui qui s'appelle Léonid Rader. Et ils sont amis tous les deux, c'est les deux juifs nord-américains d'origine russe qui sont venus d'aussi loin avec leurs médailles. Ils dorment dans la même chambre à l'hôtel, et puis ils se racontent les histoires qu'on peut imaginer. C'était aussi la jeunesse, c'était aussi le vieux temps, c'était la vie qu'on a eue, et puis la vie de maintenant. Est-ce qu'on s'est fait voler ses vies? Est-ce qu'on a eu raison de les vivre comme ça? Qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ce qui se présentait? C'est difficile à dire, c'est de l'émotion, c'est des fragments, et c'est des mots très précieux, et des photos aussi.
Меня Леонид.
Леонид.
Радер.
Радер.
Ну, так и говорил до конца войны.
И я фил ла гар жуска ла фин.
Раньше Украина, а потом
Кёнигсберг.
Польша, это вот, потом
Кёнигсберг. Кёнигсберг.
Вот. Дошли туда, а потом Берлином, если я могу показать.
И après Берлин, je peux vous montrer une photo si vous voulez.
Рейхстаг покажу вам.
Рейхстаг, je peux vous montrer le Рейхстаг.
Alors les photos de l'arrivée à Berlin.
Вот это.
Ah, c'est émouvant des petites photos, ouais.
Танк, тигр.
Ça, c'est le temps.
Первый тигр, это 60 тысяч лет ему, эта фото.
Cette photo, elle a plus de 60 ans.
Elle a fait des kilomètres, cette photo. Elle est pliée, il y a les plis, les marques de plis, on voit pas rien du tout. Ça, c'est évanoui.
Il y avait beaucoup de brouillard, c'était très difficile. J'étais dans des buissons. Et j'ai fait la photo.
Это наш командир.
Ça, c'est notre commandant du corps de tank.
Et ça,
c'est le général Berlinger de l'armée polonaise.
Et ça, alors
voilà. Et voilà, ça, c'est à Berlin. Voilà le Reichstag.
Ah.
Et moi, là, assis.
Ah ouais, 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 sur la piste. C'est extraordinaire, hein, cette image.
Ça, c'est le Reichstag.
Qu'on voit derrière en ruine, qui est cette statue équestre avec notre ami Asitu, il y a exactement 60 ans.
Là, il y avait écrit nous, on est de telle ville, on est de Skopje. Et moi, j'ai écrit j'ai été ici. Chacun mettait son nom de famille.
Ah,
à Berlin.
Personne ici dans ce club de vétérans de Volgograd a moins de 75 ans. Hein, sur la moyenne, c'est 80. Et voilà, on chante des vieilles chansons, on se réunit autour d'un samovar. Et voilà, on chante. C'est une petite chorale, comme ça, très agréable, avec des couples qui se sont reformés depuis peu de temps. Et des gens très, très hospitaliers. Et qui évoque évidemment cette époque. Quelqu'un nous a dit quand c'est la guerre, on peut tout faire. Et c'est vrai que il y a ce mêle à ces mémoires, évidemment la nostalgie de la jeunesse dont je parlais, et puis peut-être aussi autre chose, c'est que on se souvient comment après au tout début de l'offensive du 21 juin 1941, Staline a été surpris, les autorités soviétiques ont été semble-t-il assez décontenancées par la rapidité de cette blitzkrieg. Et Staline, j'en ai parlé déjà, a adressé au peuple soviétique un discours qui faisait vibrer non plus la lutte des classes, le communisme ou que sais-je, l'horizon socialiste et les lendemains qui chantent, mais le patriotisme soviétique, non pas soviétique, mais russe, la vieille terre, il a fait vibrer ces cordes-là, et en même temps, il y a eu un certain, on peut pas dire relâchement, mais il y a eu moins d'oppression, on vient d'évoquer les purges de la fin des années 30, et c'est peut-être ça dont aussi ces vétérans, ces témoins, ont la nostalgie. Voilà ce que le point de vue de l'historien anglais, auteur de Stalingrad, Anthony Beevor.
Il vivait avec la mort, donc il n'avait plus peur, vraiment, de Smersh, le département spécial du NKVD, et ils étaient prêts à dire presque n'importe quoi. Mais cette période, bien sûr, était complètement finie en 45, parce que déjà, vers la fin de la guerre, Staline voulait reprendre le pouvoir sur l'armée rouge. Il avait peur de l'armée rouge, il avait peur du maréchal Joukov. Donc, le pouvoir politique a été réimposé d'une façon féroce pendant les premiers mois de 45. 135 000 soldats et officiers de l'armée rouge ont été condamnés pour, soi-disant, crimes contre-révolutionnels.
Et Goulag.
Oui, bien sûr. Et en plus, la grande majorité des prisonniers de guerre étaient envoyés dans le Goulag aussi.
Ici, dans cet autre secteur, la ligne Staline est attaquée. L'artillerie allemande bombarde les ouvrages fortifiés qui ont été camouflés en de paisibles fermes. Rassemblement de prisonniers près de Minsk. Après une longue marche, distribution aux prisonniers russes par les soins de l'armée allemande d'un premier repas. Les médecins allemands donnent les premiers soins aux prisonniers de l'armée rouge. Au même moment, les rouges massacrent avec une sauvagerie bestiale les soldats allemands qui ont pu tomber entre leurs mains. Ces images se passent de commentaires.
Alors en effet, ces images se passent de commentaires, c'est... Ces éléments sonores que vous entendez, ce sont des commentaires, des actualités filmées qui étaient diffusées dans les salles de cinéma en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, Vichy oblige, c'était bel et bien de la propagande pro-allemande, pro-Reich, avec évidemment les rouges, les bolcheviques, tout ça c'était de la racaille dont il fallait absolument se débarrasser. Ces images se passent de commentaires, comme dit le commentateur. Voilà un autre extrait de ces commentaires des films d'actualité qui passaient donc dans les salles de cinéma. Voilà un petit extrait à nouveau.
Le soir est tombé. Le combat se poursuit sans trêve. Bientôt, les unités allemandes avancent au-delà de Minsk sur la route de Saint-Pétersbourg. De fortes unités blindées soviétiques tentent d'entraver la marche irrésistible des chars allemands. Après un combat nocturne d'une particulière violence, la division cuirassée russe est détruite. La ligne Staline, réputée imprenable, est percée de toutes parts. L'avance allemande se poursuit victorieusement. La nouvelle Europe est en marche.
La nouvelle Europe est en marche, c'était l'argument des collaborateurs et de Vichy à l'époque. Eh bien, la nouvelle Europe, on l'a rencontrée à Volgograd, à travers la présence d'une délégation allemande, d'Allemands, venue de Spandau, à côté de Berlin. Et qu'est-ce qu'ils venaient faire là, ces messieurs, le maire de Spandau, des représentants d'associations et du conseil municipal? Eh bien, ils venaient rencontrer des dames âgées qui avaient été travailleurs forcés en Allemagne. Il y a environ 5 millions de soviétiques qui ont été prisonniers, déportés en Allemagne et employés dans ces... bien sûr, les hommes étaient au front, il fallait de la main-d'œuvre. Eh bien, on a employé ces manœuvres dans les usines, dans les travaux des champs, divers et variés. Il y a eu aussi en France le STO de tous les pays occupés par le Reich. Eh bien, on envoyait en Allemagne ces main-d'œuvre, ces travailleurs forcés. Donc, environ 5 millions. Et aujourd'hui, les gens de Spandau, de cette ville proche de Berlin, viennent indemniser, viennent aussi tâcher de se réconcilier avec ces personnes qui sont venues travailler, parce que c'était pas seulement combler des déficit de main-d'œuvre à cause de la guerre, mais c'était aussi travailler dans des entreprises, et des entreprises toujours fameuses aujourd'hui, telles que Volkswagen ou IG Farben et Krupp, etc., des entreprises de ce genre-là, pour lesquelles ces femmes ont travaillé. Elles sont là autour de cette table et il y a d'incroyables retrouvailles. C'est superbe, là on est avec trois dames âgées. Toutes les trois dans cette petite salle de noces et banquets. Et ce sont trois femmes d'ici, trois femmes qui sont nées à Stalingrad et qui ont été déportées toutes les trois en Allemagne, à Spandau exactement, et qui ont travaillé donc dans le travail obligatoire, dans les camps allemands, et qui sont revenues après la guerre. Quand elles sont revenues, elles ont été déconsidérées, elles ont été considérées comme des ennemis du peuple, comme des collaboratrices. Et longtemps, elles ont porté ce stigmate-là. Aujourd'hui, ces femmes se retrouvent, et elles sont trois devant nous, trois, et qui se retrouvent là 60 ans après. Elles se sont retrouvées et elles s'aperçoivent qu'elles ont travaillé dans le même camp. Et elles sont là, elles sont bouleversées, elles sont bouleversantes, elles sont souriantes, elles sont apaisées. Comment vous vous êtes retrouvées alors ?
Je me suis assise par hasard à côté. Si je ne m'étais pas assise à côté d'elle, on n'aurait pas réalisé. Et je lui ai demandé, vous avez trouvé quelqu'un de votre camp ? Et elle a sorti une carte, une photo, et j'étais dessus. Et on a compris qu'on était dans le même camp.
C'était lequel camp ?
C'était la fabrique Electron de Spandau.
Vous, madame, comment vous vous appelez ?
Marina Maximovna.
Quel âge vous aviez ?
17-18 ans. Mais au camp, la vie n'était pas facile quand même. Vous comprenez, on vous donne un morceau de pain. Et on nous dit, ça, c'est pour une semaine. Les plus âgés, ils partagent en 7 morceaux, et ils économisent, mais nous, les plus jeunes, on mangeait tout de suite. On nous donnait des pommes de terre. C'est la pomme de terre qui nous a sauvés. Voilà comment on vivait. C'est notre jeunesse qui nous a sauvés. Et comme on était jeunes, tout était rose, parce que la jeunesse, c'est rose. Il y avait aussi des prisonniers militaires soviétiques, ça faisait vraiment de la peine de les voir. Nous, quand on sortait de la fabrique avec nos pommes de terre, et on leur mettait un petit sac de pommes de terre près d'un trou pour qu'ils les prennent. Et les bons
membres de la Polizei, ils faisaient comme s'ils n'avaient pas vu.
Et il y avait
un vieux policier âgé, Otto, il s'appelait Otto Grand, il était grand. Celui dont le fils a été tué à Stalingrad. Ah oui, je me souviens de lui. Il était bien, il était vraiment bon.
Un policier allemand ?
Oui, un allemand. Un allemand.
Son fils, под Сталинградом убило.
Son fils a été вот tué près de Stalingrad. Вообще
стал такой же, ну, потерять сына, это же...
Parce que, et alors, à ce moment-là, perdre son fils, c'est tellement... Il est devenu...
Проверяет вроде все на месте нет. И посидит, и поплачет немножко.
Il pleurait, il venait nous voir, il pleurait.
А еще один был Эрвин.
Il y en avait un autre aussi qui s'appelait Эрвин. Alors lui, par contre, lui c'était un SS. Alors lui, vraiment...
Все, и немцы все разные.
Les Allemands, ils sont différents les uns des autres aussi.
Как сказать?
Мне, например, повезло.
Moi, j'ai eu de la chance, par exemple. Quand je suis rentrée ici, personne n'a voulu me chercher de noises. On ne m'a pas redéportée. La seule chose, c'est que j'ai caché que j'avais été en camp. Ça, je l'ai caché. Il y en a qui étaient... Quand on est rentré, il y en a qui étaient sympas avec moi. Et une fois, une femme m'a dit... Je
ne
sais pas pourquoi, elle m'a dit comme ça, en pleine face.
Откуда приехал?
Retourne d'où tu viens.
Все, вот это единственный случай.
Ça c'était le seul cas.
Ведь никому ж не говорили мы,
что on disait à personne, on disait à personne qu'on avait été là-bas.
Вот у нас я работал ночами. Он так
Moi je travaillais comme chef.
Так хорошо ко мне относился.
Et tout le monde est très gentil avec moi.
Как только дошло до него, что я в Германии.
Et dès que les gens ont su d'où je venais, ça a été fini. Le comportement était complètement différent. Avant, on plaisantait, on discutait. À partir de ce moment-là, ça a été fini. Moi aussi, ça m'est arrivé, ça. Quand on est arrivé à Svetlyar, le président du comité exécutif du district a su que j'avais travaillé là-bas. Il m'a convoqué. Il a convoqué mon chef et il a dit à mon chef, est-ce que tu te rends compte de qui travaille dans ton service? Elle a été chez les Allemands. Ça, c'est la seule fois. Et le reste, ça compte pas. Sinon, on ne le disait à personne, jamais. Vous faites ça pour la télé?
Pour la radio.
Radio.
Parce
que sinon, on va encore nous déporter.
Alors, vous allez vous voir toutes les trois?
Et déjà nous, et déjà toutes les deux, depuis un an.
Mais qu'est-ce que vous allez vous raconter? Les histoires d'enfants?
On se raconte Spandau, on se remémore tout. Moi, avant, je ne voulais pas m'en souvenir, mais maintenant... Maintenant, j'ai envie de partager ça, de retrouver les souvenirs. Et vous allez en parler en France, tout ça?
Oui, mais on va entendre vos voix en France.
Привет, передавайте. Кто был в Шпандау из французов? Может быть, кто живые?
Alors dans ce cas-là, vous transmettez un salut aux rescapés français de Spandau, ceux qui sont encore en vie.
Может быть, кто это живой?
Peut-être qu'il y a des vivants encore.
Ah bien sûr, j'en connais au moins un, Cabana. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Ruskov.
C'est une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet, Stalingrad, les vétérans. Merci à Aude Merlin pour la traduction et à Marc Perron pour la musique. Sachez que ce soir, lundi 9 mai, pour célébrer la journée de l'Europe et exiger des médias un débat démocratique et pluraliste sur la Constitution européenne, l'Observatoire français des médias organise un rassemblement à 18h, c'est-à-dire tout de suite, place de l'Europe, métro Europe, dans le 8e à Paris. D'autres rassemblements sont prévus en province, notamment à Belfort, à la Fontaine de la rue Piétonne, Faubourg de France et à Lille, rassemblement et manifestation de protestation devant FR3. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Olivier Ruetor et Michel Bézikian et puis toute l'équipe de là-bas si j'y suis, Antoine Chao, Yann Chouquet et Pascal Pascariello ainsi que notre chef répondeur Christophe Humbert. Il vous attend au 01 56 40 37 37.